17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, notre grand témoin aujourd'hui, Badis Khenissa, ingénieur, dirige un cabinet conseil et président du think tank Club Émergence. Il va nous expliquer ce que c'est que le Club Émergence, bien sûr. Alors, Badis, vous venez d'être nommé membre d'un observatoire de la société civile que le président de la République Abdelmadjid Tebboune vient de mettre en place, comme quoi tout arrive en Algérie. Et donc, plusieurs commissions, 6 commissions dans cet observatoire, une cinquantaine de membres. Son président est Hamzaoui Abdelrahman, qui est le président des scouts algériens. Scouts, d'ailleurs, dans lesquels vous avez participé à un moment donné, puisque vous avez fait un bref passage chez les scouts. Et donc, vous avez été élu à la présidence de la commission collaboration internationale et communauté nationale établie à l'étranger. Alors, tout d'abord, cet observatoire créé par la présidence de la République, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pourquoi? C'est quoi cet observatoire?
Alors, tout d'abord, Nasser, bonsoir. Merci beaucoup pour cette invitation, cette tribune qui m'honore, donc notamment dans le cadre justement de l'information et de la pédagogie justement autour de cet observatoire, pour expliquer d'une manière la plus simple possible cet observatoire, sa composition, mais surtout ses finalités et ses objectifs à terme, qui seront bien évidemment dans un cadre très collectif, très collégial. L'observatoire, effectivement, vous venez de le rappeler, c'est un observatoire qui est un organe consultatif, c'est une institution constitutionnelle, comme son nom l'indique, donc elle est régie par la Constitution, notamment l'article 213, et qui d'ailleurs émane du programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune, de manière à vouloir, dans cette nouvelle Constitution, donner plus d'élan, une dynamique positive à la société civile que je rappelle, dont il est issu en tant que candidat en 2019, et à laquelle il souhaiterait effectivement donner une espèce de tribune, une espèce de porte-voix.
Il était quand même ancien Premier ministre et ancien ministre.
Oui, mais pour la candidature,
c'est relatif.
Pour la candidature, il était en tant qu'étiquette société civile. Après, les soutiens, ça c'est autre chose. Vous savez, dans la constitution algérienne, quand on est candidat...
Oui, il disait lui-même qu'il était un enfant du Hirak.
Absolument, absolument. Donc, dans ce sillage, si vous voulez, il y a cet observatoire qui est né, donc d'une volonté politique d'abord, et aujourd'hui, c'est une institution qui existe, et attardons-nous justement sur cette institution, cet organe consultatif qui est rattaché directement au président, donc il ne reporte qu'au président d'une manière directe et sans interférence. Cet organe, si vous voulez, c'est un peu, pour faire simple, je vais schématiser pour que le message passe très très bien, enfin, est très très clair, c'est un organe qui est là pour créer une espèce de caisse de résonance de la voix du peuple, notamment par sa société civile, et notamment aussi, plus particulièrement, puisque je suis là pour ça, pour la diaspora, donc la communauté nationale établie à l'étranger. Donc, cette caisse de résonance, ce porte-voix, qui va d'abord accompagner, encadrer et instaurer un espace de dialogue favorable, justement, avec notre diaspora. Dieu seul sait, elle est en demande justement d'être écoutée, elle est en demande justement de la faire intégrer et l'impliquer davantage d'une manière beaucoup plus significative. Donc que ce soit d'ailleurs dans les problématiques qui la touchent directement là où elle se trouve, parce que je suis en charge aussi de toute la diaspora à travers le monde, mais également dans son interaction avec l'équation de la construction de la nouvelle Algérie dont nous attendons, dans laquelle effectivement je souhaiterais, et dans le sillage du programme du président, qu'elle soit au centre du débat public, au centre de l'équation de la reconstruction, donc qu'elle soit un acteur majeur dans cette reconstruction.
Alors, Badis Khenissa, vous arrivez quand même dans une ambiance et un passif très très lourd, très compliqué. Donc vous êtes président de cette commission collaboration internationale et communauté nationale établie à l'étranger. Disons, la communauté nationale à l'étranger, l'État algérien s'en est toujours fichu comme la dernière de ses chaussettes. On rappelle un peu l'histoire. Depuis l'indépendance, la communauté à l'étranger a été gérée par le ministère de la Défense. C'était, il fallait absolument éviter que l'opposition politique pénètre la communauté. Donc on a créé une milice qui s'appelait l'Amicale, qui a œuvré jusqu'en 83, où à l'époque Chadli donc a dissous l'Amicale, et on a monté une association. Et ensuite, il y a eu plusieurs tentatives, plus ou moins avortées, de construire une rencontre entre l'État algérien et sa diaspora. On se rappelle tous, et vous êtes pas un peu jeune, mais peut-être que vous en rappelez, la grande réunion du MITAQ, où toute la communauté internationale était réunie. Et finalement, il y a eu des bagarres entre le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Il y a eu une paralysie qui a fait que ça a complètement avorté. Il y a eu ensuite des secrétaires d'État qui ont été nommés. Aujourd'hui, il y a le ministère des Affaires étrangères, M. Lamamra, qui a en charge dans son portefeuille le secrétariat du travail étranger. On sait tous que l'ambassade d'Algérie, c'est un peu comme la reine d'Angleterre, n'a aucune action en direction de la communauté à l'étranger. Les consulats sont là pour délivrer des passeports. Donc la diaspora est relativement orpheline, disons, vis-à-vis du pays d'origine, tout en sachant que les Algériens du monde entier ont un amour indéfini de l'Algérie et réagissent au quart de tour lorsqu'il s'agit des intérêts de l'Algérie. Donc il y a vraiment une disproportion, un hiatus énorme entre les attentes de la diaspora et cette espèce de mépris dans lequel l'État algérien a cantonné l'immigration algérienne, la communauté à l'étranger. Vous avez cette lourde charge de changer les choses.
Bah écoutez, toute modestie gardée, bien sûr, parce que enfin, c'est un travail d'abord collectif, c'est un travail de convergence des visions, convergence des efforts, la mutualisation. Si vous me permettez juste rapidement, moi je, vous savez, à travers votre plaidoyer, je pense que vous avez très bien expliqué le déficit ou la défaillance par le passé, même s'il y a certains points qui sont discutables, mais on n'est pas là pour refaire l'histoire. Ceci étant, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le passé, c'est le passé. Cet observatoire intervient dans le cadre d'une reconstruction tournée vers l'avenir afin d'élargir les horizons, notamment pour la diaspora en particulier, puisque je suis là pour ça aussi, avec toute une équipe, avec d'autres membres qui sont aussi nommés pour la diaspora. Donc, l'idée, c'est de créer une synergie dans ce sens. Moi, l'observatoire, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un observatoire qui est là en complémentarité. Comme j'ai expliqué au début, c'est un organe consultatif, donc il est amené à donner, à énumérer certaines préconisations directement au président de la République, qui lui a donné une importance quand même, faut-il le rappeler et peut-être l'attester de bonne foi, à donner une certaine importance à la diaspora, que ce soit à travers la fameuse réunion de la diplomatie algérienne, un événement historique dans lequel il a effectivement fait converger les visions des diplomaties, des représentations à travers le monde, de manière qu'elles soient au service de la communauté là où elles se trouvent. Bien sûr que tout n'est pas beau. Il y a un déficit, comme vous l'avez expliqué, et l'émergence de cet observatoire, elle vient pour peut-être commencer, parce que c'est le point de départ, c'est le point le début de la solution, non pas la solution en elle-même, mais cette solution, on doit d'abord y croire, s'engager complètement, mais surtout être déterminé pour essayer d'un peu de sortir aussi de cette culture de l'immédiateté que nous avons héritée et partir vers un travail collectif. Donc cet observatoire, concrètement, il va établir, reconstruire des passerelles de confiance, d'abord avec la diaspora, et c'est là où réside la lourde tâche, effectivement, parce qu'il y a un déficit, il y a eu même des articles constitutionnels qui ont stigmatisé d'une manière constitutionnelle la diaspora. On est là aussi.
Entre autres, le 51-49,
tout à
contre
fait.
Lequel vous vous êtes battu.
Absolument, à l'époque. Effectivement, on était d'ailleurs, on l'a fait sur ce plateau. Donc, il y a un déficit, il y a un rapport effectivement peu reluisant. Donc on est dans cette dynamique pour pouvoir justement y apporter des réponses, mais encore une fois avec la diaspora patriote, avec la diaspora qui souhaite, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, celle qui peut-être physiquement est ailleurs à l'étranger, mais son cœur est resté en Algérie.
Alors on va revenir dans un instant notamment sur cette idée de patriotisme que j'aimerais que vous m'expliquiez, peut-être pour préciser aux auditeurs et aux auditrices cette proximité que vous avez avec l'Algérie, puis surtout avec le monde de l'immigration. Badis Renissa, vous avez 42 ans, vous êtes originaire de Batna, la capitale des Aurès, et donc vous êtes aujourd'hui ingénieur de formation, vous avez fait un passage bref au scout musulman, à l'UNJA, et vous étiez à l'université d'Oran, et puis vous avez fait des études en France, comme on l'a dit, et vous avez monté plusieurs choses, Luxury Food, l'importation de la date en France. Ensuite, vous avez créé le Club Émergence, qui est un think tank qui réfléchit un peu...
De rénovation intellectuelle,
pas plus précis. Ce qui se passe en Algérie, notamment, on parlait de la tragédie, des tragédies algériennes, notamment la décennie sanglante. Et vous avez aussi, en 2019, vous avez lancé Twiza, cette espèce d'association d'aide en direction des étudiants et des Algériens de façon générale qui étaient bloqués pendant le Covid dans les aéroports pour trouver un logement, pour leur donner à manger, etc. Absolument. Et là aussi, vous avez tout récemment créé Basmatek, une boîte à idées pour rentrer dans le débat national.
Tout à fait.
Alors, vous souhaitez être le porte-voix de la majorité de la majorité silencieuse, et vous pointez du doigt une minorité tabageuse. C'est qui cette minorité tabageuse ?
Alors, je pense que, enfin, il y a des raccourcis quand même dans votre énoncé, notamment sur cette question. Moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui, à travers, d'abord à titre personnel, parce que j'étais dans l'associatif et je suis issu de cette immigration. Je suis né en France, hein, je le rappelle. Donc, je connais parfaitement en fait un peu les rouages de la diaspora, mais surtout les attentes. Et c'est ça ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est dont il est question d'ailleurs et le débat. Mais quand je parle de majorité silencieuse, je pense que nul ne peut nier aujourd'hui qu'il y a une majorité silencieuse, que ce soit d'ailleurs à l'échelle internationale au sein de l'immigration, même en Algérie, qui effectivement peut-être n'exprime pas de manière efficace, d'une manière, imposante sa voix.
Et donc, oui, mais majorité silencieuse.
Non, j'y viens.
À la Bondo, c'est un peu l'auberge espagnole. On y met ce qu'on veut.
Mais je pense qu'il faut identifier
les choses.
Je pense qu'il faut pas entremêler les choses. Encore une fois, si vous me laissez juste finir l'idée, vous allez comprendre un peu le sens de ma réflexion. Encore une fois, même si aujourd'hui je suis plus là pour parler d'action pour l'Observatoire, mais c'est pas grave.
On va y venir. On a le temps.
Absolument. Ce que je veux dire, c'est que cette majorité silencieuse, l'Observatoire, quand il est venu aussi pour être le porte-voix, mais surtout pour construire des canaux, des espaces de dialogue et de concertation. Donc, il est venu aussi...
Notamment réformer la pratique associative.
Entre autres.
Les conditions de créer des associations.
Entre
on va y venir dans un
entre
instant.
Autres,
aujourd'hui,
on est
c'est la croix et la bannière pour créer une association.
Absolument. Travailler
dans le monde.
Voilà.
On va y venir.
C'est très important parce que l'Observatoire, il a beaucoup plus de prérogatives que cela. C'est-à-dire qu'on parle aussi de la promotion de la citoyenneté, de la pleine citoyenneté. Mais figurez-vous que aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une tendance internationale, un citoyen lambda, s'il souhaite s'impliquer davantage dans l'équation citoyenne, il faudrait d'abord qu'il reconsidère un peu son rôle dans cette équation. Donc c'est pourquoi cet observatoire aujourd'hui, il a ce rôle, cette lourde tâche de faire de la pédagogie, ce que c'est la citoyenneté, la pleine citoyenneté, ce que c'est la démocratie participative, ce que c'est la citoyenneté participative, ce que c'est le débat, les règles du débat et donc l'échange. Et tout cela, cet agrégat va construire une équation, une dynamique positive pour aller donner la parole davantage à cette majorité citoyenne, certes qui, parfois... Vous savez, le président de la République, tout de suite, a imposé, a installé un décor en parlant de ces zones d'ombre. Les zones d'ombre, aucun président n'en a parlé avant, donc parce qu'il reconnaît qu'effectivement, il y a eu deux décennies de défaillance, deux décennies de dérives dans lesquelles nous avons aujourd'hui l'obligation et le devoir de travailler dans ce sens et d'essayer d'y apporter des actions correctives, mais surtout pragmatiques.
On revient dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours avec Badis Renissa, qui est président du think tank Club Émergence et qui vient d'être élu à la tête de la commission internationale et communauté nationale à l'étranger dans le cadre de l'observatoire de la société civile créé récemment par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Alors, Badis Renissa, vous dites que cet observatoire devrait être un trait d'union entre l'État et le citoyen. Un des traits d'union, parce que les traits d'union, ce sont quand même les corps intermédiaires. Les partis politiques sont un trait d'union, les syndicats sont un trait d'union, les think tanks, comme vous parlez, ce sont des traits d'union. Donc l'observatoire, c'est un trait d'union de plus.
Tout à fait. Et même, j'irai plus loin, c'est-à-dire il est dans un rapport de complémentarité, d'ailleurs avec les pouvoirs publics, comme les acteurs, comme vous venez d'expliquer.
Il devrait refléter les attentes du pays. Est-ce que le hiérarque qui a illuminé l'Algérie et le monde entier pendant près de 2 ans n'a pas manifesté justement les attentes du peuple algérien? Comment vous allez faire avec cette revendication, même si pour l'instant il n'y a pas de manifestation, mais qui est latente? On le voit bien avec les réseaux sociaux, avec les emprisonnements, avec tout ça, on voit bien qu'elle est là, cette revendication.
Si vous me permettez, franchement, avec tout le respect que je vous dois, encore une fois, la vraie équation de reconstruction, elle se passe sur le terrain, c'est-à-dire au quotidien des Algériens. Moi, je reviens d'Alger, j'y vais souvent, j'ai des attaches, qu'ils soient familiaux ou même professionnels ou autres, donc je suis, si vous voulez, on va dire habitué à la vie au quotidien, en tout cas de l'Algérien lambda où qu'il se trouve. Donc moi je sors un peu justement de ces carcans, un peu de la le monde virtuel des réseaux sociaux et autres. Certes ça nous donne une tendance, mais la tendance, c'est pourquoi je reviens sur cette majorité silencieuse, elle est dans les zones d'ombre, elle est dans les villages, elle est dans les hameaux, elle est dans les villes, les grandes et les moins grandes. Donc c'est tout ce tissu.
Ils sont importants, ils ont élu Barack Obama, ils ont élu Donald Trump, ils sont importants.
Oui, mais ils ont apporté des printemps arabes, ils ont détruit des pays, ils ont mené certaines régions à leur perte. Cas, donc vous voyez, il y a le pour et le contre. Je pense qu'on n'est pas en train de faire le débat de Facebook ou des réseaux sociaux, mais je suis en train de dire juste que si on veut construire une équation pérenne, durable, pragmatique, il faudra la faire sur le terrain, avec les gens du terrain, et donc avec les acteurs.
Un blogueur ou un youtubeur, c'est quelqu'un du terrain.
J'enlève en rien.
Il y a 10 millions de pages vues, c'est qu'il y a 10 millions de personnes qui le voient. Donc,
Monsieur Kétan, j'enlève en rien son importance et son rôle à jouer dans justement l'équation sociale. Ceci étant, juste, je me dois aussi de vous rappeler que ça reste du virtuel, dans un contexte aussi géopolitique très explosif, dans un contexte aussi l'Algérie subit ses guerres de nouvelle génération, notamment la quatrième génération, qui se passe justement sur les réseaux sociaux. Donc il y a tout un agrégat, des ingrédients auxquels il faudra rester vigilant et attentif. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est avancer d'une manière concrète, physique, vous et moi, en discutant les yeux dans les yeux et en essayant de faire de la concertation, de la collégialité et à plus forte échelle, notamment avec le peuple algérien.
Donc, d'accord, mais vous êtes d'accord quand même que la société civile en Algérie n'a pas attendu l'Observatoire pour s'organiser. On l'a vu pendant les inondations de Bab El Oued, pendant les tremblements de terre, on l'a vu pendant le Covid, on l'a vu pendant les incendies. La société civile s'organise, souvent l'État est défaillant, et heureusement que la société civile est là et qu'elle arrive à trouver des solutions. Donc la société civile, c'est une réalité en Algérie.
Absolument, mais on n'a jamais dit que la société civile était défaillante. Bien au contraire, l'Observatoire intervient dans un contexte dans lequel effectivement il y a des défaillants, il y a des obstacles, il y a des problématiques à régler, notamment on en a parlé tout à l'heure, donc la création de des associations, mais il y a un travail aussi de structuration et d'accompagnement. Vous avez évoqué, je l'ai évoqué à maintes reprises, et notamment surtout les associations algériennes ici en France ou ailleurs, qui ont été tout de suite proactives par rapport aux problématiques, notamment de solidarité sanitaire, solidarité humanitaire, mais on a besoin de donner une espèce de dynamique, de synergie qui mutualise ces efforts. Moi, j'aimerais bien que demain, on fluidifie effectivement le rapport entre les associations ici patriotes à l'étranger avec les associations algériennes à travers des jumelages, à travers des espèces de entre JV associatives. Moi, je parle de diplomatie associative, Monsieur Kétan.
Ça, évidemment. Et le numérique aidant, ça devrait ça s'accélérer. Mais là, on touche du doigt quelque chose de très important dans le jumelage et dans la présence de l'international. Dès qu'il y a de l'international en Algérie, on pointe du doigt et on dit ingérence. Donc, on a eu tout récemment les quelques ordinateurs de l'association de la Casbah. Il y avait quelques ordinateurs et on les a taxés d'ingérence, pour pas parler d'autres associations. Aujourd'hui, comment vous comptez régler cette histoire vous savez qu'en Algérie, il y a les associations nationales, interwilaya et locales. Seule l'association nationale peut recevoir des fonds internationaux. Et quand c'est une association locale, elle doit passer par une association nationale. Est-ce que vous comptez faire des propositions aussi à ce niveau-là pour qu'une association locale puisse recevoir 2-3 ordinateurs, un petit peu de sous, d'une ONG, de l'Europe, de l'UNESCO, etc. C'est quand même incroyable qu'une association qui travaille dans l'agroalimentaire, dans les vêtements, dans l'artisanat, ne puisse pas respirer et recevoir une aide, ne serait-ce qu'internationale, et qu'on puisse tout de suite l'accuser d'ingérence ou de cinquième colonne. Est-ce que vous comptez, par exemple, vous attaquer à ça?
Écoutez, tout d'abord, sur le premier point, le point de cette suspicion, comme vous venez de le dire, on va dire en filigrane. Moi, je suis désolé. Je pense qu'aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Donc, d'abord, l'Algérie n'est pas une république bananière. Donc, l'Algérie a vécu énormément de traumatismes, que ce soit la décennie noire ou autre. Elle subit actuellement des tentatives de déstabilisation et de tout genre. Donc vous le savez très bien que le cadre géopolitique et géostratégique est en ébullition. Mais en même temps, à travers certaines déstabilisations, il faut un peu observer autour de soi. Aujourd'hui, toutes les tentatives de déstabilisation avérées sont venues via le spectre des ONG qui, elles, ont une latitude beaucoup plus importante en matière d'intégration justement et de confiance peut-être des États, qui ont fait que c'est devenu des chevals de Troie pour pouvoir apporter un quelconque message de démocratisation et autres au gré justement des attentes des certaines puissances néocolonialistes et autres. Non, moi je pense qu'aujourd'hui, sans pour autant tomber dans la suspicion extrême et extravagante, on doit travailler justement dans ce sens, comme vous l'avez expliqué, avec des ONG respectueuses, respectables, qui n'ont aucun grief contre l'Algérie, qui sont aussi dans une espèce de rapport d'intérêt gagnant-gagnant, dans lequel aussi les intérêts de l'Algérie, et notamment de la société civile algérienne, sont défendus. Il y a des canaux pour cela. Donc moi, je reviens sur le projet de loi de qui régit l'associatif.
Vous savez que depuis 2012, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que ça remonte à 2012 où il y a eu la réforme associative sur les interwilaya et sur le statut pour les fondations.
Tout à fait.
Et depuis 2012, depuis 10 ans, rien n'était fait. Là-dessus, est-ce que vous comptez, par exemple, vous attaquer à cette idée qu'une association locale pourrait avoir des moyens sans passer par une association nationale? Ou alors, dans ses statuts, il faut que les membres soient issus de 25 wilayas. C'est incroyable. On pourrait très bien monter une association avec 2-3 personnes. Pourquoi aller? C'est des choses incroyables.
Monsieur Gaetan,
est-ce que vous comptez vous attaquer à ça, par exemple?
Mais, dans une vision globale, oui. Mais je vais vous expliquer, on fait un peu les tenants et les aboutissants. Vous avez parlé du projet de loi donc de l'associatif. Effectivement, il revient sur la scène, il revient sur la table de la présidence et notamment du président de la République, qui tenait beaucoup à le remettre un peu en question, à le réadapter, le revaloriser pour qu'il puisse être un outil justement de promotion de l'associatif, un outil aussi de la moralisation de l'acte de l'associatif, notamment dans le tissu associatif. La moralisation passe aussi par une espèce de même si l'observatoire n'a pas pour rôle d'être le flic un peu ou le policier des associations, mais il est là aussi pour les accompagner de manière à leur donner tout le contexte favorable et l'environnement adéquat pour qu'ils puissent exploser, je dirais, en matière d'action, que ce soit d'ailleurs sur le tissu local, national ou même international. Cependant, il faut reconnaître, Monsieur Kétan, et ça, il faut revenir un peu à la typologie, la sociologie de l'associatif en Algérie. Pendant 2 décennies, on a eu cette vague massive, cette vague scélérate d'associations, de création d'associations, qui n'était pas dans un but qui était propre à eux selon leur règlement intérieur ou leur projet, mais plutôt dans un cadre clanique. Mais aujourd'hui, on a besoin d'assainir la situation.
Ça, c'est parce que c'est dû au système qui était vicié à l'époque, puisqu'on a asséché les partis politiques.
Mais on est en train de corriger, justement.
On a asséché les partis politiques. On a empêché les syndicats, notamment dans la santé, dans l'éducation, de s'exprimer. On a empêché les partis politiques d'exister. On a étouffé la presse. Donc, les associations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont créées pour contester. D'ailleurs, vous-même, vous savez qu'à chaque consultation électorale en Algérie, on va chercher des associations pour faire la campagne. Donc, effectivement, il faut rétablir un peu cette organisation, que l'association soit une association qui travaille dans un domaine, l'agriculture, la culture, etc. Mais le fait que c'est complètement été vicié par le système politique de l'époque, qui a asséché les corps intermédiaires, et donc l'association, elle était là pour contester. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a une grande demande, et d'ailleurs, Louisa Gallès, qui a fait un travail sur la vie associative en Algérie, a pointé du doigt le problème de la formation, ce que vous soutenez à l'instant.
Absolument.
Et effectivement, il faut former les gens à la vie associative, de façon à accompagner la société, et effectivement, c'est peut-être le challenge qui vous attend. Et il y a aussi un challenge qui vous attend aussi, c'est, vous savez qu'en Algérie, lorsque vous avez une association, vous pouvez pas traiter d'autre chose. Badis fait une association sur les ordinateurs, il peut pas s'occuper des moutons ou de la laine, ou des vélos. Est-ce que à cette verticalité je veux dire, de la loi sur les associations, qui est vraiment très contraignant, vous pourriez aussi proposer une transversalité, c'est-à-dire qu'une association pourrait traiter de l'ordinateur, du mouton, de la basket et du vélo. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas aussi à ce niveau-là un travail à faire pour que les associations puissent respirer? Hein, donc là, il y a vraiment un boulot qui vous attend.
Je pense qu'on chante la même chanson, juste peut-être on le dit avec des mots différents, mais quand vous parlez de tissu associatif, effectivement, faut qu'il soit en adéquation aussi avec les attentes de la société civile, parce que c'est le seul lien ou l'intermédiaire direct avec le citoyen algérien lambda.
Elle est l'émergence.
Absolument.
Elle est l'émergence de la vie citoyenne.
Monsieur Kétan, mais le tissu associatif, tout n'est pas beau, tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, voilà. Mais pour autant, il y a énormément d'associations qui travaillent, qui œuvrent. Dans la loi organique, justement, du projet de loi de l'associatif, l'Observatoire, sous l'instruction du président de la République et le Premier ministre, a demandé l'implication. C'est ce que nous avons fait. Donc, nous avons enrichi ce projet de loi pour qu'il puisse être un catalyseur d'une dynamique positive pour les associations. Mais encore une fois, l'association... Oui, dans sa transversalité en matière d'action, de champ d'action, mais elle doit aussi se conformer. Vous le noterez aussi, c'est le cas de toutes les associations à travers le monde et notamment en France, qu'elle se conforme à son projet, organique et surtout à son règlement intérieur qui encadre un peu cette action, qu'elle ne divague pas, qu'elle ne parte pas dans tous les sens.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM.
Toujours avec Badis Renissa. Donc moi, je ne peux pas. Donc on va aborder bien sûr la diaspora, les récentes déclarations de Emmanuel Macron pour aider les gens de la diaspora à créer des entreprises et à développer de la valeur de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis surtout sur la coopération internationale dont vous avez la charge. Mais je ne peux pas ne pas vous poser la question. La société civile, elle existe en Algérie depuis des décennies. Elle est dans l'agroalimentaire, elle est dans la santé, elle est dans l'éducation, etc. Elle n'a pas attendu de s'organiser. On l'a vu dans le Hérar, on l'a vu dans différentes manifestations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en prison, des gens qui ont monté des blogs, qui ont monté des associations, dans différents domaines, des jeunes femmes, des jeunes hommes. Est-ce que sur cette jeunesse, qui est la principale richesse du pays, hein, qui est avant le pétrole, avant le gaz, c'est comme la jeunesse du pays, la principale richesse, et je dirais même c'est sa principale armée. Le jour où on attaque l'Algérie, le peuple algérien se soulève comme un seul homme. C'est ça l'armée de l'Algérie, c'est le peuple algérien. Donc, ces jeunes sont discriminés, ils sont criminalisés, atteintes à la sûreté de l'État, etc. Quel regard vous portez quand même sur ces jeunes qui n'ont rien demandé, qui ont fait un post Facebook, ils ont monté une association, je pense à différents membres d'associations. Est-ce que là-dessus, vous allez faire un travail? Est-ce que vous allez regarder? Est-ce que vous allez faire des propositions?
Alors, d'abord, on va se conformer au fait justement aux prérogatives de l'Observatoire, qui est un organe consultatif. Donc, il va faire émerger des préconisations. Ce qu'il faut savoir, une fois par an, nous remettons un rapport directement au président de la République, en toute collégialité, avec un travail de fond qui a été fait en amont. Maintenant, si vous me parlez des jeunes, de la jeunesse, effectivement, je vous rejoins. La jeunesse, c'est la manne inestimable, c'est le capital humain de l'Algérie, de sa force, de sa richesse. Mais j'irai plus loin, c'est métaphoriquement, c'est un peu, moi je le qualifie de ce diamant brut qu'il faudra façonner. Donc il faudra lui donner tous les moyens.
La jeunesse qui ne se révolte pas, c'est pas la jeunesse.
Non, mais...
La jeunesse est révoltée par essence. Contre l'autorité parentale, familiale, mais politique. Donc, ça fait du bien, une jeunesse révoltée. On la met pas en prison parce qu'elle est révoltée.
Après, il y a révolté et révolté. C'est-à-dire que révolté, par rébellion, on va dire, comme un adolescent, quand il traverse son adolescence, effectivement, ça forge le mental, ça forge un esprit, effectivement, pour créer cette diversité, on va dire, d'opinions et d'avis, donc pour l'enfant, pour que demain il devienne un adulte accompli, un adulte responsable. Maintenant, révolté, Et là, je vois un peu en filigrane où vous voulez en venir. Moi, écoutez, en tant que membre de l'Observatoire, mais avant d'être membre de l'Observatoire, en tant que citoyen démocrate, citoyen qui respecte les valeurs républicaines, les valeurs nationales de l'État algérien, il me semble que si il faut qu'on soit en phase et en adéquation avec nos attentes, notamment cette construction de l'État de droit, cette construction de l'État démocratique, l'État national et sa préservation qui puisent dans un contexte explosif comme aujourd'hui. Moi, je crois intimement que effectivement l'Observatoire, il est là pour donner des préconisations et même apporter les défaillances pour qu'il puisse y apporter le président de la République des actions collectives.
Je dis ça mais... pour pas que vous soyez ringardisé, décrédibilisé, il faut que vous soyez aussi en écho vis-à-vis
je vous ai parlé de pragmatisme.
De la jeunesse, vous voyez.
Je vous ai parlé.
Okay. Le pragmatisme, c'est aussi ça. Donc,
c'est aussi ça.
Vous allez vite être ringardisé.
C'est aussi ça. Mais moi, je.
Et vous allez atterrir dans les limbes, les énièmes, structures qu'on a créées, qui, voilà. Donc, c'est aussi, une façon d'essayer d'assurer une pérennité.
Alors, mais je me dois en même temps de vous dire, en tant que citoyen du monde et citoyen algérien à part entière et issu de la diaspora et qui plus est un fervent défenseur de la démocratie, de ses principes surtout, parmi ces principes, c'est aussi le respect, comme nous le faisons d'ailleurs en France et partout ailleurs. C'est qu'en tant que citoyen, nous obéissons à des droits, enfin à des règles, mais aussi nous avons des droits. Moi, je aussi, parmi ces principes, c'est le respect, on va dire, du processus judiciaire, du processus notamment de la justice. Donc, faut croire en la justice. Moi, quand vous parlez effectivement de jeunesse ou en filigrane de détenus d'opinion, c'est parce que il est là le point fondamental hein, de votre question, ou plutôt de la sémantique de votre question. Moi, je vous dis que en tant que citoyen d'abord, je ne maîtrise pas ni les tenants ni les aboutissants de ces dossiers. Donc, et je pense en tant que fervent démocrate, je ne peux pas m'immiscer dans ce processus. Vous imaginez si en France ici, à chaque dossier ou affaire judiciaire, tout le monde s'immisce, c'est un peu la débandade et ça devient tout sauf un état de droit ou un état démocratique ou un état ne serait-ce que républicain. Donc, je me dois de faire confiance à cette justice qui, elle, a les ingrédients, qui, elle, a les on va dire, les charges. Donc, pas par ignorance, si vous voulez, je ne peux pas me prétendre être le porte-étendard de quelconque cause, étant donné que j'ignore tout l'affaire, enfin, tout le dossier. Ça, c'est une chose. Par contre, j'ai l'intime confiance dans le cadre judiciaire, dans l'institution judiciaire, et notamment la justice, qui, elle, fera, on va dire, son travail dans un processus, on va dire, démocratique, qui respectera, bien évidemment, le droit des citoyens, en tout cas des Algériens.
Sur la diaspora, donc vous êtes très attaché à la diaspora, vous avez en charge la communauté à l'étranger. Par définition, la diaspora, elle est diverse, elle est plurielle, elle est multiple, elle est attachée au pays de façon quasi, je le disais tout à l'heure, quasi irrationnelle.
Fusionnelle.
C'est-à-dire
oui.
Mais en même temps, elle est rompue aux pratiques démocratiques. La communauté algérienne en France, c'est à peu près 130 ans. Les pratiques syndicales, les pratiques associatives, les pratiques des partis politiques, elle a une liberté de ton, elle a une liberté d'action, qui sont pas toujours bien vues de l'autre côté de la Méditerranée, dans notre pays d'origine. Donc vous avez un vrai travail sur la diaspora. Comment comptez-vous la valoriser et surtout faire en sorte que ça matche entre les autorités et la communauté?
Écoutez, d'abord commencer par le commencement, c'est-à-dire s'attarder davantage sur les convergences des visions, sur les points communs et non pas les points qui nous divisent. Donc notamment, comme vous l'avez expliqué, cet attachement intrinsèque, fusionnel avec l'Algérie et l'État algérien, donc et son devenir. Deuxièmement aussi, peut-être se diriger davantage plus vers l'horizon, donc vers l'avenir, et parce que la chronologie des événements et le passé, je pense que c'est une chose, c'est un vecteur, si vous voulez, de création de synergie qui va nous permettre effectivement d'aller de l'avant, mais surtout de construire ensemble. Donc oui, ressasser le passé, c'est une chose, faut pas oublier le passé. Cependant, pour qu'il devienne un peu l'obstacle justement de toute construction collective à terme, je me dois de l'écarter à ce moment là parce qu'il devient une espèce de point bloquant d'une équation beaucoup plus massive, d'une dynamique beaucoup plus positive qui va permettre effectivement d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc, alors, la diaspora
Je vous en prie, je vous en prie.
Donc la diaspora aujourd'hui, dans sa diversité, parfois même son adversité, il faut s'accorder sur les fondamentaux, c'est-à-dire l'amour du pays, le patriotisme, et surtout, on va dire, converger sur les finalités qui sont l'apport de cette diaspora à bien des égards, dans tous les secteurs, vous l'avez si bien et très justement précisé, notamment cette référence en toute matière, notamment démocratique, politique, sociale, sociétale, économique, associative, historique. Donc, on a ce rôle aussi à jouer de notre part. Aujourd'hui, je pense que à travers cet observatoire, le président de la République a voulu donner un signal fort, il l'a donné à maintes reprises, mais il a voulu aussi donner d'une manière effective, d'une manière concrète, un outil de reconnexion, je dirais, avec la diaspora, pour qu'on puisse, à bâton rompu, faire table rase du passé, mais surtout dessiner, élargir cet horizon qui est finalement un horizon commun, collectif entre nous.
Alors, les diasporas sont un peu à la mode, entre guillemets. Récemment, il y a eu le sommet en France, Afrique, France, notamment à Montpellier, dans lequel 4000 personnes étaient issues de la diaspora en Afrique, étaient représentées à Montpellier, dans le sommet de Montpellier.
Mais dans lequel n'a eu aucun dirigeant, par contre.
Donc des gens d'origine africaine qui étaient là. Le forum du monde méditerranéen s'est passé il y a pas longtemps à Marseille, aussi, où les diasporas étaient présentes. Il y avait un véritable plaidoyer pour la Méditerranée. D'ailleurs, l'Algérie était présente. Il y avait une vingtaine de jeunes de la société civile de toute l'Algérie qui était présente. Emmanuel Macron a fait une déclaration importante. Il a débloqué une somme de 100 millions d'euros à destination des gens de la diaspora, des binationaux, donc français et algériens, français et marocains, français et tunisiens, qui avaient des projets, qui peuvent monter des choses, de la valeur ajoutée. Et ils sont prêts. Donc il y a un fonds de 100 millions d'euros qui pourrait aider des jeunes entrepreneurs comme vous, comme d'autres, à faire des choses en Algérie et en France, bien sûr. Vous pensez que ça va dans la bonne direction? Comment l'Observatoire ou comment l'État algérien pourrait aider et accompagner, par exemple, cette idée?
Alors, l'Observatoire, bien évidemment, en collaboration et coopération avec le ministère des Affaires étrangères, va être dans ce sillage, justement, dans le cadre de la coopération internationale, comme vous l'avez évoqué, et la commission dont je préside, va opérer dans ce sens, de manière à, au même titre que la France, d'autres pays aussi, qui vont... vous avez vu, aujourd'hui, il y a le forum Europe-Afrique, dans lequel M. Lamamra est présent également.
Je crois que c'est le Premier ministre qui est présent.
Non, Monsieur Lamamra.
Lamamra qui devait être là au début, puis après on...
Voilà. Donc c'est dire, en fait, voilà, que l'Algérie, je pense, ça répond à votre question, qu'est-ce qui s'inscrit dans cette dynamique de vouloir construire l'Algérie avec le monde et non pas à côté du monde. D'une part, d'autre part aussi, à travers l'Observatoire, à travers la société civile, à travers surtout les dénominateurs communs qui sont cette classe citoyenne qui est la diaspora, au même titre que la diaspora africaine ou maghrébine ou algérienne, c'est un peu le trait d'union culturel, identitaire et autres entre les pays hôtes. Donc on se doit aussi, nous, en tant qu'observatoire, de consolider ce travail, de le renforcer de manière qu'il puisse être un peu, c'est comme j'ai évoqué tout à l'heure, cette diplomatie de la société civile qui devienne un peu ce soft power, ce levier de développement durable, notamment pour le pays d'origine et notamment l'Algérie dont il est question, mais surtout d'être aussi une force de proposition, une force de qui pèse de tout son poids dans l'équation quelconque du pays haut dans laquelle elle vit.
On arrive à la fin de cette émission. Dernière question. Donc cet observatoire et cette commission dont vous avez la charge, c'est un signe de l'Algérie, des autorités algériennes, pour ouvrir l'Algérie vers l'extérieur, pour construire un réel état de droit. Ça veut dire que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que vous allez vous atteler à ces deux chantiers.
Écoutez, l'Algérie, après Hirak du 22 février, le Hirak authentique du 22 février 2019, s'inscrit dans ce sillage, s'inscrit dans cette dynamique de vouloir, comme j'ai expliqué, construire avec le monde. Donc, il faut s'ouvrir aussi au monde. Aujourd'hui, cet observatoire, il intervient aussi à travers le monde, comme pierre angulaire, quelque part, de cette coopération et collaboration, bien sûr, avec les ministères des Affaires étrangères, à pouvoir, ne serait-ce que dans notre coopération, nous devons établir des consultations, des collaborations avec des organismes similaires. Je rappelle que cet observatoire, et je dirais, fait la singularité, quelque part, de l'Algérie à travers le monde. Il y a ici et là quelques instances mais qui n'ont pas cette vocation, qui n'ont pas ces prérogatives très élargies, qui n'ont pas ce poids et ce rattachement au président de la République. Donc c'est dire que l'Algérie s'inscrit dans une dynamique de démocratisation, de recréer le lien avec les valeurs républicaines, les valeurs nationales, mais surtout promouvoir la citoyenneté à travers le monde, à travers les, les ambassadeurs qui sont les Algériens à travers le monde. Donc le message est bien évidemment sociétal, mais aussi il est politique, parce que nous sommes dans une ère dans laquelle nous devons s'adapter en fonction des mutations aussi, non seulement des États et l'émergence du nouvel ordre mondial, mais surtout les mutations aussi de la société civile et ses exigences, et notamment celles de la diaspora.
Et vous savez que, sans faire du mimétisme avec d'autres pays, vous savez que dans l'Algérie, dans les racines algériennes, dans l'histoire millénaire de l'Algérie, il y a une tradition démocratique à travers le Jumaa, à travers les confédérations, à travers un certain nombre de pratiques démocratiques. Donc elles sont là, elles existent. Il suffit simplement de les remettre d'actualité. Donc finalement, peut-être qu'il y a une jonction à ce niveau-là qui peut se faire. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, Bédis Renissa. Bon courage, bonne
Et je compte sur vous d'ailleurs, je compte tout, bon sur chantier, toutes les forces vives.
Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez dans cette radio, parce qu'elle est là pour ça aussi.
Avec à plaisir, bientôt, merci beaucoup. Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.